Bien, je vous invite à venir avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 31. Et j'espère que vous avez lu ce chapitre en anticipation de notre étude, parce que c'est un long chapitre, on ne va pas tout le lire. Mais nous allons commencer la lecture au verset 1. Genèse 31, verset 1. Et nous intitulons donc ce message « L'exode de Jacob ». Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse ». Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau, ou plutôt qui sont venus vers lui au champ. Il leur dit, verset 5, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob ». Je répondis, « Me voici ». Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères ? Puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan, tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les thérapimes de son père, les idoles, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Et le texte continue, comme vous le savez, pour montrer tous les épisodes, toutes les péripéties qui arrivent à Jacob jusqu'à ce qu'il arrive en Canaan. Alors cette fois-ci, nous allons nous arrêter jusqu'à l'entretien entre Jacob et Laban et le moment où Laban disparaît de la scène. Et puis après quelques semaines d'arrêt, nous reprendrons la suite, Dieu voulant. Alors le temps est venu pour Jacob de partir de Syrie. Voilà, c'est un migrant, c'est très moderne. Et il veut retourner à Canaan, le pays qui lui est promis à lui et à sa postérité. Et Moïse ici montre bien, il retourne vers Isaac, son père. Mais même ce départ, comme pour tout ce qui concerne Jacob, c'est un épisode mouvementé. Jacob ne peut rien faire calmement, il semble. Mais il y a un point que j'aimerais souligner, d'abord, d'emblée, et qui a son importance. Un point duquel est tiré donc le titre de ce message, l'exode de Jacob. Prenons donc un petit peu de recul. Rappelons-nous que l'auteur humain de la Genèse est Moïse. Moïse qui a aussi écrit les 5 premiers livres, donc les 4 qui suivent la Genèse dans la Bible. Mais soulignons que Moïse, quand il écrit la Genèse en particulier, c'est après la sortie d'Égypte, alors qu'il se dirige avec le peuple vers la terre promise. Et les écrit en premier lieu, il les écrit en premier lieu, ou il écrit la Genèse en premier lieu, à l'adresse de gens qui viennent de sortir d'Égypte après un long esclavage. Alors l'esclavage, on ne sait pas combien de temps il a duré, mais déjà Moïse a 80 ans à l'époque où ils sortent, et ils étaient déjà en esclavage avant sa naissance. Mais voilà des gens à qui il écrit, ou à qui il donne ce livre, Genèse, puis Exode et les autres, en particulier, des gens qui traversent le désert pour se rendre dans le pays que Dieu a promis à leur père, une promesse qui a déjà 430 ans. Et Moïse couche le récit du retour de Jacob en termes de l'Exode que lui et le peuple viennent de connaître. Alors, ce n'est pas qu'il tord le récit de façon à le faire entrer dans son scénario, non. Mais il relève que le thème de l'Exode est très présent dans l'expérience de Jacob. Et en fait, il est très présent tout au long de l'Écriture, comme nous pouvons le relever. Ici, par exemple, Moïse voit bien que Jacob part à la hâte. Il s'enfuit, il est dit, en catimini. Et les Israélites, quand ils mangeaient la Pâque, devaient la manger avec leurs vêtements mis en position de départ. Ils allaient partir rapidement et ils devaient manger à la hâte. C'est donc comme le peuple. Et puis, il est poursuivi par l'adversaire, ça c'est notre chapitre, comme le peuple d'Israël au temps de l'Exode. Dieu intervient pour sauver son peuple et l'ennemi disparaît complètement de la scène. Même chose ici. Même chose ici. Et on verra, on voit que c'est continuellement ce thème qui est très important dans l'Écriture, le thème de l'Exode. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, on voit que Jésus, sur la montagne, transfiguré, parle avec Moïse et Élie. Et de quoi parle-t-il ? Du départ, comme il est dit dans nos versions, du départ qu'il va effectuer à Jérusalem, mais le mot départ, c'est le mot exode. Et c'est donc un thème que nous voyons dans tous les endroits. Par exemple, un thème que nous voyons dans la vie du Seigneur Jésus lui-même. Lui, qui est exilé dans le désert de ce monde, il est là pour accomplir la promesse de l'Alliance. Le voilà qui monte sur la croix. Alors même que les ennemis veulent repousser la chose à après la fête. Les chefs des Juifs ont dit, on va le mettre à mort, mais il ne faut pas le faire pendant la fête, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des débordements avec toute la foule. Mais l'agneau meurt à Pâques, n'est-ce pas? Et donc, il est là sur la croix, c'est lui qui dirige. L'adversaire vient le cerner pour le détruire. Et cette fois-ci, l'adversaire le détruit. Tout au moins, c'est ce qui semble être la réalité. Mais voilà le matin du troisième jour qui se lève et Dieu intervient et il le ressuscite. Et le pouvoir de l'ennemi est brisé à tout jamais. Maintenant, le diable est rempli de rage contre l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il sait que son temps est court. Il est déjà condamné, déjà brisé. Donc, ce thème est encore là. Et vous qui êtes croyants, ne voyez-vous pas sans cesse le thème de l'Exode dans votre expérience ? Vous êtes passé par votre Bethel, le temps où vous avez connu Dieu, ou plutôt où Dieu vous a connu. Bien qu'imparfaitement, il est vrai, vous le connaissez, mais tout imparfaitement que ça soit, c'est réel. Ce monde est devenu un désert et vous marchez, vous traversez ce monde vers la terre de la promesse, qui est un pays beaucoup plus beau que Canaan. Et l'adversaire ne cesse de vous harceler. Le monde, le diable, votre chair. Il ne cesse de vous assaillir, de vous harceler. Mais en Christ, Dieu ne cesse jamais de vous venir en aide. Et quel n'est pas notre témoignage à ce niveau-là? L'ennemi veut vous plonger dans la panique, par exemple. Et bien souvent, votre cœur part en vrille. Mais Dieu est là. Et d'une manière mystérieuse, d'une manière merveilleuse, le voilà qui fait venir filtrer une paix incompréhensible, inexplicable, une paix qui vous remplit, une paix qui surpasse toute intelligence, dit le Nouveau Testament. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tout ce qu'on pourrait penser devrait nous conduire à la panique, à faire des tas de choses, mais non, Dieu est là. Et sans cesse, l'adversaire est déjoué. Et vous pouvez témoigner que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Ça, c'est le témoignage du chrétien, du croyant authentique. Et ce n'est pas fini. Mais Dieu vous délivrera de tous vos ennemis, y compris du dernier ennemi, la mort, celui que vous craignez le plus. Vous vous tiendrez, ce jour-là, sur les rives de ce Jourdain impétueux, rempli de crainte. Vous n'êtes jamais passé par là, n'est-ce pas? Mais parce que l'arche de l'Alliance, le lieu de la paix, est passé, vous a précédé, lui-même, ce grand Messie sera là à vos côtés et vous entrerez très certainement dans la grande terre promise, celle que Dieu poursuit depuis le départ, à travers ses promesses. Donc on voit ce thème de l'Exode qui sans cesse revient, sans cesse est là, et il est très important, et c'est quelque chose qu'il faut veiller à garder à l'esprit, c'est pour ça que je voulais le souligner. Mais voilà Jacob qui s'apprête à retourner en Canaan et qui prend le chemin. Il y a plusieurs façons d'aborder le récit de ce retour. Et c'est un peu la difficulté de préparer cela. Alors prenons pour méthode, ce matin, quelque chose qu'on a déjà fait, l'examen des personnages principaux. Alors Léa, l'aînée de Laban, est impliquée, mais elle ne joue pas un rôle majeur, donc on va la laisser un peu de côté, on va lui laisser la paix, et puis comme ça elle peut s'occuper de ses nombreux fils. Commençons, premier point, donc, par Rachel. Je ne vais pas faire la bêtise de l'autre fois, n'est-ce pas, où j'ai oblitéré Rebecca sciemment. Voilà, et puis on m'a reproché, alors il a fallu aborder Rebecca dans le message suivant. Maintenant, on commence par Rachel. Rachel. Et Rachel, le titre de ce premier point, c'est Rachel, belle, mais pas belle. Au moins, vous voyez qu'on fait de la poésie. Commençons donc par l'épouse bien-aimée de Jacob. Beaucoup de mères, au cours de l'histoire du christianisme, ont voulu et ont appelé leur fille Rachel. C'est un nom qui sonne bien, le sens est joli, voilà. Mais à la lecture de l'Écriture, on s'aperçoit que la seule chose bien que Rachel a fait vraiment, c'est de capturer le cœur de Jacob. Parce qu'à part ça, c'est pas bien bien beau non plus. Comme nous lisons, Rachel était belle de taille et de figure. Alors on essaye d'imaginer, n'est-ce pas? Mais il semble que ses atouts se soient arrêtés là, tout simplement. Dans toutes ses transactions avec Jacob, quand on la voit dans l'Écriture, partout, on ne voit nulle part la mention de Dieu. Face à sa propre stérilité, et surtout face à la fertilité de sa sœur, nous lisons, elle porta envie à sa sœur. C'est pas quelqu'un qu'on veut vraiment avoir pour ami, il me semble. Et la voilà, capricieuse, qui fait porter le blâme à son mari, Je suis stérile, c'est ta faute. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Elle ne sait même pas ce qu'elle dit, parce qu'en fait, au deuxième enfant qu'elle aura, elle va mourir. Mais c'est la femme capricieuse, et elle blâme le mari. Alors le mari n'était pas stérile. Et puis, c'est elle encore qui, face à sa stérilité, initie la solution bâtarde de lui donner sa servante. Quelque chose qui, normalement, aurait déjà dû l'alerter que ce n'était pas la bonne voie. Et puis, on se souvient de l'épisode des mandragores, quand elle achète les mandragores à sa sœur, pour pouvoir justement être fertile. Et si Dieu ne lui donne pas d'enfant, qu'est-ce que les mandragores peuvent faire? Effectivement, on l'a souligné la dernière fois, Léa qui se défait des mandragores tombe enceinte, Rachel qui prend les mandragores n'en a aucun résultat. Mais la superstition charnelle de Rachel ne s'arrête pas là. Elle va tout porter sur les mandragores, et puis voilà qu'au moment de partir pour la terre promise, imaginez, c'est quand même une bénédiction énorme. Voilà que maintenant, elle a l'occasion de partir et d'aller dans la terre qui est promise par Dieu lui-même. Sa tante a eu une démarche complètement différente au même instant. Eh bien, à ce moment-là, quand elle est prête à partir pour la terre promise à laquelle s'attache toutes les grandes promesses qu'on a vues, voilà donc que Rachel dérobe, vole les idoles de son père. Alors, on ne va pas perdre de temps en supputation sur ce qu'étaient ces thérapimes. Le fait que les traducteurs de la Bible en français ont gardé le mot thérapime montre qu'ils avaient probablement mieux à faire qu'aller chercher le détail de ça. Ce sont les idoles de son père. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui, à leurs yeux, semble, aux yeux de Laban, aux yeux des gens là-bas, avait un certain pouvoir, ou il leur donnait un certain pouvoir. Mais voyons plutôt comment ce que fait Rachel révèle l'état de son cœur. Il est possible qu'elle ait voulu, qu'elle ait dérobé ses thérapimes, ses idoles, parce qu'elle voulait s'assurer la possession, le bien de Laban, une fois qu'elle partait de la maison. Possible, Laban les avait déjà spoliés, notre texte nous le montre. Peut-être qu'elle voulait garder quelque chose qui était familier, hein, les dieux familiers souvent on dit, divinité familière, alors qu'elle partait pour l'inconnu. Jacob, quand il était venu de Canaan, était venu assez pauvre. Bon, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le cœur de Rachel est vraiment tout aussi attaché à la terre et étranger au Dieu de la promesse que le cœur de son père. Quand on voit Laban, on voit Rachel. C'est quelque chose de clair et c'est ce que ce vol nous enseigne. Mais cela ne s'arrête pas à ce point-là. Une fois que le vol est mis au jour et Laban vient et il accuse Jacob d'avoir volé, d'avoir dérobé ses thérapimes. Et Jacob dit non, c'est pas moi. Et donc, Laban va chercher partout. Voilà l'occasion de se repentir, n'est-ce pas? Non, voilà que Rachel, à travers un stratagème, manifeste la turpitude de son cœur en servant à son père la même tromperie que celui-ci n'a cessé de produire. C'était vraiment la digne fille de son père. Même plus loin, quelques chapitres plus loin, au moment de mourir, le nom qu'elle donne à son second fils montre qu'elle est toujours centrée sur elle-même. Quand elle l'appelle Ben-Oni, c'est le fils de ma douleur. Donc c'est sa douleur à elle qui est au centre. Bon, elle est en train de mourir, on va être d'accord. Mais quand même, Jacob, qui perd sa bien-aimée, change le nom, n'est-ce pas? C'est le fils de ma puissance. Parce que c'est dans sa descendance que Dieu va agir. Vous voyez? Donc Rachel, ouais, belle mais pas belle, comme on dit, n'est-ce pas? Et Rachel est un avertissement solennel à chacun de nous. Elle surpasse en beauté sa sœur, d'une manière ou d'une autre. Elle détient l'amour fou de son mari. L'amour, on pourrait dire carrément un amour gaga, parce que plus loin, on voit Jacob qui agit par rapport au fils de Rachel, mais il n'est pas dans son bon sens à ce moment-là. Mais ça, on va en venir un jour à cela. Elle est la mère de Joseph, n'oublions pas, une image claire du sauveur à venir. Mais elle est prisonnière d'un cœur qui est étranger à la promesse. Un cœur qui se confie dans les idoles vaines de son père. Et tout ça, ça se produit dans le cadre de toute une période de au moins 6 ans, probablement 7 ans, où Laban, avec toutes ces belles idoles-là, est en train de perdre sa richesse pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'idole de ce côté-là. Vous voyez ? Et donc Rachel aurait dû savoir. C'était devant elle, mais elle est prisonnière d'un cœur étranger à la promesse. N'est-ce pas l'état de l'homme par nature, notre état par nature ? Même en présence proche de la promesse et de l'héritier de la promesse, ce cœur reste dans sa perdition, à moins que Dieu n'intervienne, qu'il fasse quelque chose. Et là, on en revient à ce qu'on a dit tellement souvent, le cœur naturel. La chair ne peut rien du tout. Alors Rachel est un avertissement et elle nous encourage à nous examiner nous-mêmes. Mais passons au deuxième personnage, Laban. Alors Laban, ça c'est grandeur nature, la chair est chair. On aurait pu dire la chair ne peut produire que la chair. Donc c'est le père maintenant, et c'est une image très exacte du monde des hommes. C'est une image qui est tellement exacte au point d'être troublante, car, rappelons-le, nous aussi, nous sommes des êtres humains. L'action de Jacob, en s'enfuyant, a atteint Laban dans son orgueil, en plein dans l'orgueil. Pour la première fois depuis 20 ans, imaginez, Laban n'est pas celui qui dirige, il n'est plus au contrôle. Jacob lui a échappé, qui plus est. Laban qui est malin, vous vous rappelez, il avait bien compris que la source de la bénédiction qu'il recevait passait par Jacob, et voilà que cette source a disparu. Il y a de quoi vraiment être paniqué. Et donc voilà Laban qui pousse sa monture d'une façon folle pour rattraper le fuyard. Il est certain qu'il respire le meurtre, tout au moins le mal. Mais ce qui est frappant surtout, c'est comment cet homme du monde vit dans l'illusion. Que ce soit conscient ou pas, que ce soit honnêtement ou non, difficile à savoir, mais il vit dans l'illusion la plus totale. Et c'est pour ça que c'est une image terrible de notre monde, de l'homme naturel dans le monde, de l'être humain. Par nature, il vit dans l'illusion. À force de tromper, Laban en arrive à se tromper lui-même. Lui qui, depuis plus de 20 ans, ne cesse de tromper et d'exploiter Jacob, au lieu de s'en repentir, qu'est-ce qu'il fait ? Il se présente comme un modèle de vertu. Quand on entend Laban parler à Jacob, on dit « Mais franchement, Jacob, il n'a jamais réalisé qu'il avait un beau-père aussi merveilleux que Laban ?» Mais ça, c'est ce que Laban pense. Et c'est vraiment terrible. Et il est probable qu'il est sincère dans cette perspective de lui-même. Erroné, mais sincère. Parce que la chair, par elle-même, est aveugle et aveuglée. Et la chair est incohérente. Incohérente. Laban est fâché parce que la fuite de Jacob l'a privé des embrassades de ses filles, dit-il, et de ses fils. Des filles qui, selon ce qu'elles disent, il a complètement spolié depuis 20 ans. Il a mangé l'héritage, leur héritage. Il est fâché avec Jacob, qu'il a privé d'organiser une grande fête d'adieu. N'est-ce pas ? C'est ce qu'il dit. Mais le voilà qui est engagé dans une poursuite avec des pensées de mal. Et il faut que Dieu intervienne pour changer cela. Vous voyez comment Laban en fait, se trompe lui-même. Continuellement, il pense qu'il est justifié dans ce qu'il fait, alors que c'est totalement incohérent. Laban, c'est l'homme du monde par excellence. Et quand on utilise le mot excellence, c'est une façon de parler, vous avez bien compris. C'est vraiment l'homme du monde. Tellement centré sur lui-même, tellement juste à ses propres yeux, que finalement, il se coupe totalement de la grâce de Dieu. Si Laban simplement s'était arrêté et avait vu que oui, c'est en Jacob que la promesse est donnée, c'est en Christ plus tard que la promesse est donnée, n'est-ce pas ? Il aurait pu justement venir se ranger comme Ésaü aurait dû le faire, sous Jacob, pour bénéficier autrement que simplement dans les troupeaux de la bénédiction qui était en Jacob. Il s'en coupe totalement, si seulement il s'était arrêté dans cette logique funeste. Il aurait pu voir donc que cette bénédiction de Dieu passe par Jacob. Mais non, non, la chair ne peut produire que la chair, et elle est prisonnière de celui qui est le père du mensonge, qui lui-même se trompe continuellement. Et écoutez, Jacob, je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances. Mais voilà que depuis 20 ans, il le trompe sans arrêt, il change son salaire continuellement, il change les limites et les règles du jeu. Je me rappelle avoir parlé une fois avec une jeune adolescente, enfin une adolescente on dira, qui était très très en colère contre sa mère, ou sa grand-mère plutôt à l'époque. Alors, pourquoi ? Parce que quand elle jouait, alors vous savez, la grand-mère joue avec les... Je ne parle pas de Wendy là. Quand la grand-mère joue avec les enfants, alors ils aiment bien, ils sont très contents. Mais il y a une chose que l'enfant n'aime pas, c'est quand on change les règles. Et la grand-mère en particulier, là, elle changeait les règles en plein milieu du jeu. Voilà, alors Laban, je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances. Mais non, regardez comment il a fait depuis 20 ans et tout d'un coup il va changer. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles, des filles qui pour lui n'étaient plus rien, des étrangères. Voici, à la fin de leur rencontre, voici ce monceau et ce monument que j'ai élevé. Or, le texte nous dit clairement que c'est Jacob qui a élevé le monument, que sont les gens de Jacob qui ont apporté les pierres pour faire un monceau, comme vous avez lu au verset 51. L'homme du monde vit un mensonge et il est incohérent. Quand vous passez du temps avec des gens du monde, ou si vous êtes vous-même encore dans les liens du monde, c'est exactement cela. En effet, ce merveilleux Laban dit dans son prochain souffle, après avoir dit tout ce qu'il a dit, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal. » Là, en fait, Jacob, tu n'as aucun espoir, si c'est simplement ça. Mais Dieu est intervenu. Donc, c'est comme cela. Et puis, voilà que Jacob lui dit, « Moi, j'ai pas pris tes divinités, tes idoles. Est-ce que Laban va le croire ?» Hein, Laban, il est bien quand même, non ? Est-ce qu'il va le croire ? Non, il va fouiller de fond en comble toutes les tentes, sauf l'endroit où étaient les choses. Il y a un peu de l'humour de Dieu là, n'est-ce pas ? Et puis, plus loin, il dit, « Ce sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. » Tout ce que tu vois est à moi. Et littéralement, techniquement, il disait la vérité. Parce que Jacob s'était placé dans une sorte de servitude à Laban. Et donc, tout ce qui était venu de quelqu'un qui est, pour ainsi dire, un esclave, appartient au maître. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Dieu est intervenu. Donc, vous voyez comment ce Laban, il se présente tout le bon côté, et ainsi de suite. Mais ça n'est pas la vérité. Et le monde autour du croyant, le monde autour de nous, agit toujours ainsi. Conduit par le mal égoïste qui étreint son cœur, il est séduit par le mensonge, au point de penser que Dieu lui doit la bénédiction et que l'enfant de Dieu est lui-même dans l'erreur. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'annonce de Christ qui dit « Mais ils vont vous mettre à mort dans les synagogues, ils vont vous amener en procès, pensant qu'ils font un service à Dieu, qu'ils vont honorer Dieu. » Ça, c'est le monde, et surtout le monde religieux. Et le problème de l'enfant de Dieu, c'est souvent qu'il adopte involontairement la logique de l'homme du monde. Surtout lorsque cet homme du monde est de nature religieuse, c'est-à-dire qu'il utilise des concepts, des mots religieux. Et là, souvent, l'enfant de Dieu est désarçonné. Qu'est-ce qu'il doit en penser? Il y a quand même, il est près de la vérité. Oui, mais près de la vérité n'est pas la vérité. Et c'est important de garder la chose à l'esprit. Et nous posons la question, n'est-ce pas, n'ont-ils pas le don, ces gens du monde, même les religieux, n'ont-ils pas le don de nous faire sentir coupables? On voit notre droit, on voit que nous sommes dans la vérité, et nous sommes prêts à nous tenir, et puis voilà, on les écoute, et on a l'impression qu'il faut presque qu'on s'excuse. Ce que nous savons sur eux et sur l'esprit qui les anime devrait nous protéger. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout dans notre folie. Écoutons davantage ce que Dieu dit que ce que les hommes affirment. Parce que c'est toujours trompeur. Et voilà que Laban part finalement, sans ses dieux. Imaginez le côté cocasse de la chose. Souvent, on prend ça comme ça, il cherche ses dieux, ouais, bon, c'est normal, ça on comprend bien. Mais voilà un monsieur qui se fait des dieux, et quelqu'un a volé les dieux, mais les dieux ne sont pas capables de retourner chez Laban, il faut que Laban vienne les chercher. Vous voyez, c'est le summum de la folie, du mensonge. Non. Laban part finalement, il se quitte, il a fini par limiter les dégâts, parce qu'en fait, quand il propose une alliance avec Jacob, c'est simplement qu'il protège ses arrières. Il ne voudrait pas que le peuple qui va venir de Jacob vienne lui tomber dessus, parce qu'il sait qu'ils ont la bénédiction qu'il leur est promise. Donc il a fini par limiter les dégâts en mettant une frontière entre lui et l'enfant de la grâce. Donc il se coupe. Il pense avoir fait la réconciliation avec Jacob, tout au moins c'est ce qu'il prétend. Mais il n'y a pas de vraie réconciliation, comme le prouve le fait que l'un et l'autre donnent un nom à ce monument qui est différent. Ils ne vont pas s'entendre sur un nom commun, mais il faut qu'ils donnent leur version pour ce monument du témoignage. Et justement, le témoignage que rend le monument, c'est un témoignage, ce n'est pas un témoignage de réconciliation. Et l'homme du monde est ainsi. Il pense être en paix avec Dieu. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que ce qui donne la paix n'est pas là. Tout ce qui donne la paix n'est pas là. Dieu n'est pas avec Laban. Laban n'est pas à se repentir de lui-même, de son péché, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de paix. Et c'est le monde qui nous entoure. C'est le monde qui est en nous, si nous sommes encore du monde. Écoutons l'avertissement de Laban. De la même manière qu'on a dit pour Rachel, Rachel belle mais pas belle, écoutons son avertissement. Ici c'est pareil, Laban, la chair est chair. Et si nous faisons la folie de nous confier dans la chair, un tant soit peu, c'est notre danger, c'est le danger, c'est notre chute. Il y a un troisième personnage dans cette histoire, c'est Jacob. Jacob, et Jacob c'est la chair et la grâce. Et jusqu'au bout, ça sera Jacob. Ah, Jacob, quel homme, quel homme. Il est l'héritier des promesses de l'Alliance. Et lui-même croit dans l'Alliance. Dieu s'est révélé à lui et Dieu s'est uni à lui. Dieu lui a promis d'être avec lui pour le protéger. Combien de fois Dieu vient avec cette promesse? Je serai avec toi. Et si Dieu est avec toi, il n'y a rien à craindre. Pourtant, comme la vie de Jacob est vraiment vécue dans la chair. Jacob, c'est quelqu'un qui est sur deux chevaux à la fois. C'est peut-être la manière dont Jacob peut aider et encourager le croyant ici-bas. Son exemple est d'un grand encouragement. Comme le dit le titre d'un livre sur Jacob, dit, soyez patient, Dieu n'en a pas fini avec moi encore. Et ça, alors, le titre est vraiment bien trouvé, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ça. Jacob, c'est quelqu'un qui est dans le processus d'être amené à être un géant de la foi. Dans l'entretien que Jacob a avec ces deux femmes au sujet de quitter Charan, il donne un aperçu de ce qui se passe à l'envers du décor. Tout d'un coup, on s'aperçoit que pendant toutes ces années, voilà ce qui s'est passé entre lui et Laban. Et on s'aperçoit que Laban, ça a été vraiment un fief et coquin. Parce que si on lit le chapitre 30, par exemple, on a l'impression que pour les derniers 6 ou 7 ans, ils se sont entendus sur le salaire, comme ça, et puis c'est bon. Mais en fait, non, là, il semble que sans arrêt, c'est échangé. Sans arrêt, c'est échangé. Mais Jacob, il faut qu'il manigance des choses, il faut qu'il arrange les choses comme il faut. Ne serait-ce que déjà le fait de demander aux femmes de venir dans les champs pour pouvoir leur parler, alors de façon à ce que personne d'autre entende, n'est-ce pas? Et malgré toutes ces imperfections, malgré toute la présence de sa chair, et elle est là, Jacob est un homme de la promesse. Cela n'excuse pas ses recours à la chair, mais cela montre que Dieu œuvre en Jacob. Et par exemple, quand on passe du temps à simplement réfléchir, comment est-ce que Jacob a répondu tout au long, pas dans cet épisode, mais tout au long de ces années, comment il a répondu aux afflictions que Laban lui donnait et tout ça, on s'aperçoit en fait que l'esprit qui était dans Jacob, c'est l'esprit du psaume 37. Ne pas répondre, ne pas tomber dans la colère. C'est cela. Il a subi, par exemple, quand il y avait un animal qui était déchiqueté. Alors Jacob payait le remplacement. Or, dans la plupart des textes légaux de l'époque, dans plusieurs des cultures là-bas, il était indiqué que dans un tel cas, c'était le propriétaire qui souffrait de la perte et non pas l'employé. Donc voilà, c'est Jacob qui est là. Dieu œuvre dans Jacob. Et de petit à petit, mais de plus en plus, on voit que Dieu est là. Quand Jacob propose à Laban le marché avec les animaux tachetés, la dernière fois, on a souligné le côté un petit peu calculateur, n'est-ce pas? Mais là, c'est très clair qu'il le fait par révélation, par la foi. Le passage est un peu obscur, il faut le dire, le reconnaître. Mais c'est Dieu qui lui a montré certaines choses. Alors, Dieu lui a montré une certaine réalité. Surtout, Dieu lui a dit qu'il le bénirait. Et quand nous voyons Jacob devenir riche, nous voyons l'œuvre de Dieu. Mais cela n'empêche pas Jacob d'utiliser ses tiges rayées. Vous voyez? Donc on a ce Jacob qui est tiraillé d'un côté et de l'autre. Mais c'est un homme de foi. Dieu lui demande de partir et lui promet sa protection. Donc, personne ne peut toucher Jacob. Et cela n'empêche pas Jacob de s'enfuir en cachette. Il croit, mais comme disait le Père dans les évangiles, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et n'est-ce pas notre expérience aussi? Jacob donc est un homme de foi. Même si sa foi n'est pas toujours en exercice, et face aux multiples adversités qu'il connaît pendant toutes ces années, il ne se venge pas, mais il s'en remet à Dieu. Et finalement, il est défendu par Dieu. C'est ce qu'il montre dans toute la tirade qu'il donne à Laban. Voilà ce que tu as fait, et voilà comment tu n'avais aucune raison de me payer comme ça, parce que moi je n'ai jamais répondu d'une mauvaise manière. Mais Dieu m'a délivré. Et il voit de plus en plus la main de Dieu. Provoqué, persécuté, il n'a pas répondu. Alors qu'il avait l'habitude de le faire, mais il s'en est remis à Dieu. Et donc, ici, Jacob nous donne une belle image. C'est une image humaine, donc elle est imparfaite. Mais c'est une belle image du Messie, celui qui viendra de Jacob. Et qui, même au pire des moments, s'en remet à Dieu. Celui qui, bien qu'il a été humilié, affligé et tout ça, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et Jacob grandit. Il ne devient pas meilleur au sens où la chair l'entend, c'est-à-dire gagner des points. Non, pas du tout. Mais on voit maintenant combien Dieu occupe une plus grande place dans sa vie. Petit à petit, l'Éternel le forme dans la communion. Et aussi dans l'adversité. Donc on a vu ces trois personnages, Mais il y a un quatrième personnage, et c'est Dieu. Et Dieu, c'est tout est grâce, tout est grâce. C'est le personnage principal de notre histoire, bien qu'il agisse souvent incognito, mais il agit certainement, c'est le principal. On pouvait penser qu'il est souvent absent, quand on voit toutes, vous vous rappelez, ces manigances là avec les femmes, les enfants, et ensuite les servantes, et tout. On se dit, mais où est Dieu là-dedans? On s'est posé la question. Et Dieu est là, Dieu est là. Et on peut se poser la question. Ne peut-il pas toucher le cœur de Rachel, si bien que Rachel devient belle? Bien sûr que si, mais il ne le fait pas, parce qu'il en fait un avertissement. Ne peut-il pas délivrer Jacob des manigances de Laban pendant toutes ces années? Si, bien sûr, il peut le faire. Et en fait, il le fait sans cesse, subrepticement, sans que ça se voie. Mais si bien que 20 ans plus tard, Jacob est toujours là. Il n'a pas été détruit. Mais en même temps, pendant tout cela, et à travers tout cela, il forme Jacob. Il forme Jacob. Il le détache de lui-même. Il l'amène à devenir Israël. Il y a même une bénédiction qui retombe sur sa famille. Par exemple, plus tard, on en verra ça dans quelques mois, quelques temps, disons, Joseph réagit aux avances de la femme de Potiphar avec une grande violence, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Lui, il savait quels étaient les dégâts que provoque l'infidélité dans une famille. Il a vécu ça. Vous voyez. Mais ici, Dieu peut faire toutes sortes de choses, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise tout cela pour former l'héritier de la promesse. Et comment est-ce qu'il le forme? Il le détache de lui-même. Et il lui montre qui il est. Et ainsi, il l'amène à devenir Israël. Et tout au long de ces épisodes, ces événements, ces turpitudes même, tout au long, Dieu poursuit son dessein. Il n'y a rien qui peut l'entraver, absolument rien, que ce soit la stérilité de Sarah, le grand âge de Sarah. C'est fini? Non, c'est pas fini. Dieu est là. Ou la stérilité de Rebecca, 20 années. L'épisode d'Agar et Ismaël, la folie d'Isaac qui va donner la bénédiction à Ésaü. Dieu est là. Dieu est là. Les calculs de Rebecca et de Jacob, les tromperies, les fureurs de Laban, rien ne peut même retarder le dessein de Dieu. Combien de fois on a l'impression d'être devant un mur de briques, n'est-ce pas? On est devant un mur de briques si on regarde avec les yeux de l'homme. Mais Dieu a un dessein qui est inexorable, qui ne connaît aucun retard, aucun retard. Et il en a été ainsi tout au long de l'histoire. Combien de fois l'Ancien Testament témoigne du fait que la lignée de la promesse est sur le point de disparaître? Prenez une concordance, cherchez Atali, et puis suivez. Vous verrez comme quoi c'était presque la fin là. Sauf qu'il y avait le petit enfant, presque un bébé, que tout le monde avait oublié. Et c'est l'héritier. Voilà. C'est presque sur le point de disparaître. Mais on arrive à la fin de l'Ancien Testament et la lignée de la promesse est toujours là. Dieu œuvre. Combien de fois entre les testaments, avec Antiochus Épiphane par exemple et d'autres, combien de fois lors de la vie du Seigneur Jésus ici-bas, ils ont cherché à le mettre à mort, mais son heure n'était pas venue. Mais finalement, le dessein de Dieu arrive au point crucial, et nous entendons ce cri de victoire. Tout est accompli. Rien n'a pu se mettre en travers. Et au moment donné, le voilà qui accomplit le salut de ses frères. Combien de fois, depuis, la lueur a vacillé, a été prête de s'éteindre? Combien de fois? Pourtant, l'évangile continue et continuera jusqu'au jour où, comme le dit Ésaïe, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond des mers, par les eaux qui le couvrent. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et cela se passe. Et vous et moi, petits chrétiens fragiles, inconséquents, rétifs, nous pensons que notre imperfection se dresse pour frustrer le dessein de Dieu. Comment est-ce que je peux être chrétien, moi? Regardez ma vie. Oui, c'est sûr. Non, il faut regarder non pas la vie imparfaite du croyant, mais le dessein de Dieu. C'est une arrogance de parler ainsi. Des fois, on pense qu'on est modeste, mais c'est faux. Non, levez le regard. Voyez comme votre salut est plus proche aujourd'hui qu'au jour où vous avez cru, dit la parole. Sûr, c'est tout à fait sûr, la gloire ne va pas nous en revenir. Absolument pas. Et c'est là le problème, n'est-ce pas? Notre chair est cela. Non, la gloire est toute pour Dieu. Et celui qui, comme ceux qu'on a vus ce matin, se dresse contre la grâce, se coupe de la grâce et tout ça, quelle est la perspective? Quelle est la perspective? C'est une perspective de désespoir. Et c'est pour cela que la parole sans arrêt invite l'être humain, l'homme qui ne connaît pas ce salut, de venir à ce Christ qui remplit, oui, parce que sinon, il n'y a aucun espoir. Le dessein de Dieu va se poursuivre et va atteindre son apogée. Il y aura ce jour, qui ne sera plus un jour, où voilà le Christ qui présente à son Père cette épouse glorieuse, sans tache. Ça se passera. Et celui qui se dresse contre cela, contre cette pierre, ça deviendra pour lui une pierre d'achoppement, et il sera brisé. Et donc, c'est l'invitation de l'Écriture, c'est l'invitation de Dieu de ne pas être comme Rachel, qui se reposait dans sa beauté, qui se reposait dans toutes sortes de choses, mais qui n'est pas belle. Qui n'est pas belle. Dommage si nos côtés romantiques sont un peu frustrés, mais elle n'est pas belle. Ou alors nous serons comme Laban, l'homme qui sans arrêt calcule et sans arrêt est frustré. Jacob, il y a l'espoir, n'est-ce pas? L'espoir. Mais un espoir qui enlève toute gloire. Et c'est bien. C'est bien, parce que si toute la gloire est ôtée de l'être humain, alors elle est à Dieu. Et que ce Dieu-là, glorieux, merveilleux, le Dieu de grâce, le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, qui a accompli le salut de son peuple, que ce Dieu-là soit glorifié dans chacun de nos cœurs. Amen.